Catherine le matin. Voici Michel Villeneuve. Que l'amour ici
se lève. Je vais le saluer, mais je vais juste aller à une auditrice. Salut Michel, officiellement.
Bonjour.
Bonjour Michel. Patiente, 30 secondes. J'ai juste Joanne qui est en bout de ligne. Je veux lui parler parce qu'elle veut nous parler du cobaye. Bonjour Joanne.
Oui, bonjour à toi Catherine.
Joanne, avez-vous ça un cobaye, vous?
Non, mais j'ai travaillé quand même quelques années en animalerie. Puis le cobaye, cochon d'Inde, c'est le seul petit animal qui naît autonome. C'est-à-dire qu'il a son pelage dès la naissance, puis il mange aussi. Il est autonome dès la naissance.
Ah, OK. Mais vous connaissez ça pas mal, Joanne, là.
Ben oui, un petit cochon d'Inde, oui, j'ai eu à travailler avec, j'en ai vendu quelques fois, oui.
OK, donc c'est vraiment dans la famille des cochons d'Inde, c'est ça?
Oui, ben c'est dans la famille des rongeurs aussi.
Ah, dans la famille des rongeurs. OK, parfait. Oui. Parce qu'au moment où on se parle, je reçois d'autres photos. Merci à Lisette là, qui nous envoie une autre photo. Donc, écoutez, merci de me cultiver. Ce matin, j'apprécie.
Ben c'est le seul animal qui naît, là, tout poilu, là. Il est autonome dès la naissance.
OK.
Hein. Fait que je voulais te le dire. Ben bonne journée.
Ben merci, Joanne. C'est super pertinent. Merci beaucoup.
Bye bye.
Voilà, à la gang, on sait toutes. Salut, Michel. Connaissais-tu le cobaye, Michel?
Non, puis moi non plus, je ne suis pas un grand fan de ces petits animaux-là.
Non, ben comme je te dis, moi, ça va. Les cochons d'Inde, moi, j'avais un hamster quand on était jeune, là, qui s'appelait Bouboule, qu'on avait perdu.
T'as pas grand-chose à faire.
Hey, Michel Villeneuve, douceur ce matin.
Je t'envoie ce matin, Catherine.
Ça a l'air à t'intéresser, mon histoire d'hamster. Je vois que ça te palpite, continue.
Non, ça m'intéresse pas. Bon. Je suis sans voix ce matin devant la décision prise par Steve Eisenman de quitter le Lightning de Tampa Bay.
OK.
Je comprends pas. Surtout à cette période-ci,
ouais,
où le camp d'entraînement des recrues s'est amorcé, on est à l'aube de la nouvelle saison. Il écoule la dernière année de son contrat de 4 ans. Son propriétaire tente de le renouveler depuis des mois, sans réponse. Puis là, il quitte pour devenir conseiller à Julien Brisebois pour passer plus de temps auprès de sa famille.
Ouais.
Bon, comment il faut décoder ça? Il faut comprendre que sa famille demeure au Michigan et que lui passe l'hiver à Tampa.
Ouais, déjà, c'est spécial
au départ,
un peu.
C'est un peu... Parce que lui, il a 3 enfants. Il y en a une qui est adolescente. Puis je pense que les 2 autres sont un petit peu plus jeunes. Ils doivent être à l'école élémentaire. Je pense que je dis ça sur toute réserve.
OK.
Si c'est le cas, peut-être que madame ne voulait pas déraciner les enfants de leur milieu ou de leur école.
Mm-hmm.
Parce que si tu as un choix entre Tampa à l'année longue puis le Michigan, je pense que Tampa, c'est une maudite belle région.
Ben oui, Michel. Ouais, mais Michel, ouais. Oui, de façon naturelle, mais tu sais, dans Floride, regarde, là, ils sont pas touchés par Florence, mais en Floride, il y a des femmes qui aiment pas ça, là, la réalité des ouragans et des tornades. Ça se peut que ça te tente pas d'aller en Floride aussi.
Ouais, sauf que tu connais l'adage, prend mari, prend pays.
Oui, mais...
Tu sais, c'est pas comme un joueur qui risque d'être échangé. Directeur général, il a signé un contrat de 4 ans.
Oui,
les DG qui se font congédier dans le hockey, c'est plutôt rare. Il y a beaucoup de stabilité et surtout avec l'organisation qu'il a façonnée avec le Lightning de Tampa Bay. C'est quasiment une job à vie.
Ouais.
Donc, il y a anguille sous roche. Est-ce qu'il y a de la maladie dans sa famille?
Peut-être.
C'est possible.
Ouais.
Est-ce que ça va mal dans son ménage? C'est possible. C'est des choses qui se produisent aujourd'hui. Est-ce qu'il est tenté d'aller butiner ailleurs professionnellement? Il a décidé de s'en aller tout doucement, de quitter tout doucement l'organisation du Lightning.
Moi, je pense que
ça aussi, c'est possible, mais en toute logique, il n'y a pas d'explication.
Non, mais c'est vrai que le timing est particulier. Moi, je pense qu'éventuellement, il va retourner dans l'organisation des Red Wings. Je pense que ça, c'est, pour moi, c'est clair. Mais pourquoi là? Puis là, tu deviens conseiller spécial. C'est vrai, il nous manque des éléments. Ça, c'est sûr.
Puis il a dit, je vais être là à 100% avec Julien Brisebois. Mais tant qu'à être là à 100%, t'aurais dû rester là à 100%.
Ouais.
Ou il avait définitivement l'idée de s'en aller, puis il voulait pas perdre Julien Brisebois. Parce que depuis 3 ans à peu près, à chaque fois qu'il y a un poste de directeur gérant qui se libère dans le hockey, nous, on a le réflexe automatique de penser à Julien Brisebois qui était son bras droit jusqu'à hier avec le Lightning.
Ouais.
Mais ça n'arrivait pas, ça ne fonctionnait pas. Pour quelle raison? Je l'ignore parce qu'il était aussi compétent que la plupart des gars qui ont obtenu des postes de DG. Est-ce qu'il n'a pas voulu y aller, sachant que Hazeman lui avait promis un jour, quand je quitterai, c'est toi qui vas avoir ma place? Est-ce que je pense que Julien Brisebois, c'est ce genre de loyal employé? Oui, on lui donnait la permission de négocier. T'as fou de pas y aller, mais dans le fond, on se disait, pourquoi j'irais me casser la gueule ailleurs alors que dès que Steve va se retirer, j'aurai dans les mains une organisation formidable. Parce que là, la pression se retrouve sur ses épaules. Parce que le Lightning, Eisenman a fait des transactions l'année passée qui devaient lui permettre d'aller gagner la Coupe Stanley. Ça fait 2 ans là, qu'il ne gagne pas.
Ouais.
Ils ont une formidable équipe. Et encore cette année, on doit les considérer comme des aspirants logiques. Tu sais, parmi les grands favoris à la Coupe Stanley.
Ouais.
Donc, cette année, c'est cette année ou jamais. Est-ce que Eisenman veut quitter pendant que son équipe va aspirer aux grands honneurs? Je ne le sais pas. Mais ça, c'est une décision qui fonctionne.
Mais dis-moi, Michel, on peut-tu revenir en arrière, revenir sur Julien Brisebois? Je me souviens pas, lorsqu'il a quitté l'organisation du Canadien, ça s'était fait comment et pourquoi?
Parce que Brisebois ne voyait pas comment il pouvait devenir directeur général du Canadien parce qu'il fallait qu'il goûte à autre chose.
Okay.
Et il a eu l'occasion de quitter l'organisation. Il a signé à Tampa Bay. Tu sais, moi, je trouve que c'est une bonne chose quand t'es dans une organisation d'aller voir ailleurs pour voir comment ça fonctionne. Et là, tu peux revenir à ton ancienne équipe pour accéder aux plus grandes fonctions. C'est pour ça que ça marche pas. Quand un coach qui a joué dans une équipe devient entraîneur-chef, la recette est pas bonne. Retire-toi, va ailleurs, reviens. Puis je pense que c'est la bonne chose. Sépare-toi un tout petit peu, là, parce que si tu... Quand tu es un employé ordinaire puis tu deviens boss le lendemain matin, tes collègues ont, tu sais, c'était tes collègues, puis là, tu deviens leur boss, tu changes un petit peu, faut que tu t'éloignes. Tu sais, c'est pas bon. Va-t'en travailler ailleurs, puis reviens un an après, c'est pas pareil. Ça a de l'allure.
Ouais,
mais en tout cas, on va savoir au cours des prochains mois ce qui s'est passé, mais c'est pas... Il y a quelque chose
qui cloche.
Comme dirait le beau Serge... Il y a anguille sous roche.
Ah, OK, oui. Hey, dis-moi, moi, là, moi, je sais qu'il se met les pieds dans les plats, mais moi, j'adore Eugene Melnyk. Au moins, lui, il avoue qu'il est en reconstruction. Merci, bonsoir.
Il a dit que, bon, l'équipe organise, amorce une reconstruction totale.
Ouais.
10 des 22 joueurs l'année prochaine vont être des jeunes.
Ouais.
Ce seront des recrues, soit des joueurs qui ont disputé moins de 20 matchs. Et dans 2 ans, ce sera 15 ou 16 sur 22. C'est un revirement de situation complet, dit-il, et c'est une reconstruction. Bon, à Montréal, on ne veut pas utiliser ce mot-là, mais si je compare à la reconstruction des sénateurs, il y a seulement que Victor Mété et Nicolas Sherbach qui correspondent à ce profil-là, puis pas tout à fait, parce qu'ils ont joué déjà plus que 10 matchs dans la Ligue nationale au moins. Fait que tu sais, là, c'est une reconstruction de fond en comble. Puis il y a encore des joueurs qui ne répondent pas à ce critère-là. Il y a encore une vingtaine de joueurs dans l'organisation des sénateurs qui ne correspondent pas aux critères mis sur la place publique par le propriétaire Eugene Melnyk. Lui, il dit, bon, on est allé à quelque part sans parvenir. Il était tout près de la Coupe Stanley. Il a dit, notre fenêtre d'opportunité était finie. Moi, je considère qu'il y a encore un paquet de bons jeunes joueurs dans cette organisation-là. Moi, je pense, par rapport à ça, on a vu là, dans le camp des recrues, là, il y a des joueurs qui s'en viennent qui sont bien meilleurs que les jeunes espoirs du Canadien par 1 000.
Ouais.
Moi, je trouve qu'il y a encore... Je comprends pas de vouloir faire maison nette tout de suite. Là. S'il veut échanger Eric Carlson parce que ça il coûte cher, là, il a juste à faire comme on a fait du côté de Las Vegas. Allons chercher des bons joueurs repêchage, puis on va construire... Tout le monde va arriver au sommet en même temps. On va faire comme à Tampa Bay. Il y a la possibilité de faire ça. Mais ils sont pas dans le chenoute, les sénateurs. Oui, ils sont dit cette année, on reconstruit avec des jeunes, mais il y a un paquet de jeunes de talent qui vont devenir des joueurs vedettes dans la Ligue nationale, pas mal plus qu'à Montréal. Leur avenir est pas mal plus intéressant que celui d'ici dans la métropole.
Ça, c'est clair.
Mais le propriétaire, il y a la franchise d'aller dire, écoute, ça nous coûte trop cher, on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Donc, on va passer à la prochaine étape. On reconstruit rapidement. Mais les autres, ils n'auront pas besoin d'attendre 3 ou 4 ans parce qu'il y a un paquet de jeunes qui sont prêts à sauter tout de suite. Tu sais, là, tu te regardes le petit Chabot.
Ouais.
Tu te débarrasses de Carlton, tu vas te chercher deux ou trois choix, un jeune joueur, puis deux joueurs pêcheurs intéressants. Chabot, il est excellent, puis ils en ont un paquet de jeunes de même.
Mais dis-moi, Michel, la valeur de... Puis évidemment, les deux joueurs n'ont rien à voir, ils ne jouent pas du tout à la même position, mais la valeur de Carlson est-elle plus élevée que la valeur de Pacioretty?
Ça n'a rien à voir.
Non, mais tu sais, on oublie le contexte, là, on oublie le fait que bon, tout le monde savait qu'il était à échanger. Oui, OK, ça n'a rien à voir. C'est... Carlson, c'est une super vedette, c'est tout ça?
Ben oui, puis quand... là, Carlson avait, je pense, en tête l'idée d'aller se ramasser du côté de Las Vegas. Mais là, en ayant signé Pacioretty pour les quatre prochaines années, ça enlève un petit peu une marge de manœuvre à George McPhee du côté de Las Vegas. Tu vas l'échanger là où il veut aller, puis là, la valeur va être intéressante. Écoute, il y a 30 clubs qu'il prendra demain matin. Carlson.
Okay.
Parce qu'écoute, il devient tout de suite son meilleur joueur. Et lui, c'est un véritable joueur de concession, alors que Pacioretty était un très bon joueur, mais pas un joueur de concession.
Mais sauf que Carlson, Ottawa, es-tu dans la même situation? Carlson, faut-tu que tu l'échanges avant le début de la saison ou pas nécessairement?
Pas nécessairement.
Non.
Parce que sa valeur, lui, diminuera pas.
Okay.
Puis au contraire, elle va augmenter tout dépendant des progrès de la saison que vont connaître certains prétendants à son acquisition. Si une équipe qui pense qu'avec lui, il va faire la différence, puis ils vont aller faire la Coupe Stanley, puis qu'ils vont aller gagner la Coupe, puis que ça va pas trop bien, là, ils vont peut-être être plus lousses dans ce qu'ils vont faire, mais ça prend une équipe qui a beaucoup de ressources au niveau des jeunes joueurs, qui a une banque de choix en pêcheur et qui veut transformer radicalement l'image de son équipe. Et ça, il y en a un paquet de clubs comme ça dans la Ligue nationale. Je pense que moi, j'aime bien Pierre Dorion, le directeur général des Sénateurs.
Ouais, ouais.
Et puis, j'ai hâte de voir comment... Le point principal en ce début de saison, pour moi, au niveau des joueurs de la Ligue nationale cette saison, c'est de savoir où va aboutir Erik Karlsson.
Oui, bien sûr.
Parce que ça va venir débalancer totalement les idées qu'on se fait sur la saison qui s'en vient. Juste lui, à quelque part, il vient te mêler, il vient te brouiller les cartes.
Oui. OK, bien, ça va être intéressant, par exemple.
écoute, il va falloir se trouver des points intéressants parce que...
Ben oui.
Bon. Après nous autres, ça va l'être moins un peu, hein?
On verra.
On va élargir nos horizons.
Oui, oui. Mais
point de vue hockey.
Oui, point de vue hockey, puis on va parler d'autres choses aussi, mais on va laisser la saison commencer, puis on aura bien le temps de chialer si c'est le cas. On s'entend là-dessus?
Ben, en tout cas, c'est une décision pas mal bizarre de voir Eisenman quitter. Ben, il reste avec le Lightning, là. Mais c'est à temps partiel.
Oui, oui, on s'entend là-dessus.
C'est pas mal, ça m'intrigue.
Ça t'intrigue. OK, Michel, on s'en reparle demain.
Ben absolument.
Salut, Michel. Bye-bye.
Ah, bonjour.
Bon, bye. Michel Villeneuve, tous les jours, 7h40.